En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'un écart de 5 degrés, c'est typiquement l'écart qu'il y a aujourd'hui entre la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui et la dernière ère glaciaire où l'Europe était recouverte de glace, et je ne parle pas d'un peu de glace, il y avait plusieurs kilomètres de hauteur de glace. 2 degrés, c'est déjà le début de l'horreur, et plus 4 ou plus 5, c'est un monde dont on n'a aucune idée et où c'est absolument pas la vie qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Colline Debelle. Originaire de Valence, l'entrepreneuse a vécu en Californie, à Washington et même au Vietnam. Mais c'est en France qu'elle a posé ses valises pour fonder en 2013 Artips. Depuis, plus d'un million d'abonnés reçoivent trois fois par semaine des newsletters truffés d'anecdotes sur l'art et la culture, mais aussi sur la musique et la science. Pressée par l'urgence climatique, celle que Google a désignée en 2015 comme jeune entrepreneuse française de l'année a rejoint en mars 2020 l'aventure Time for the Planet. L'objectif, lever 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique. Bonjour Colline.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'entrepreneuse ?
Ouais, alors ça remonte un tout petit peu maintenant. Entrepreneuse, je me suis jamais dit que je le deviendrais. C'est un peu une erreur de parcours. Moi, j'ai fait des études à Sciences Po d'abord, à HEC. Mes parents voulaient que je devienne énarque et que je fasse surtout fonctionnaire pour être bien stable et jamais avoir de problème. C'est pas du tout le chemin que j'ai pris. Autour de moi, j'avais quelques amis entrepreneurs et je me disais que ces gens-là sont complètement dingues. Ils boivent de la bière et ils codent des trucs, je comprends rien, c'est beaucoup trop risqué comme vie. Et en même temps, je suis partie aux États-Unis où j'ai découvert l'entrepreneuriat à impact. Et je me suis dit, c'est marrant, en fait, l'entrepreneuriat et l'entreprise, ça peut être des outils pour accomplir un peu le but que tu veux finalement. C'est pas une finalité, c'est vraiment juste des moyens. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ah, peut-être que ça pourrait m'intéresser, mais bon, j'aime vraiment pas assez le risque, etc. Et puis un jour, complètement par hasard, j'ai fait un start-up week-end, un peu pour m'amuser avec des amis. Et ça a pris, et je me suis retrouvée à devenir entrepreneuse de ma première boîte. J'étais encore étudiante, j'avais 23 ans. Et bah, du coup, maintenant, j'ai plus jamais arrêté, et j'adore ça, mais c'était pas parti pour être ça.
Sciences Po, HEC, Berkeley, pourquoi toutes ces études ?
Moi, j'adore les études.
Ouais.
Je sais pas, j'ai toujours été une plutôt très bonne élève, j'ai toujours été curieuse. Je voulais comprendre absolument le monde, donc j'ai fait Sciences Po. Et après, j'ai compris, je suis allée voir aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, j'ai goûté à l'entrepreneuriat, au monde du business.
C'est-à-dire que tu étais en stage ou tu as...
Non, j'ai pris des cours dans la Business School de Berkeley, en ouais. Californie. Donc j'ai découvert un peu le marketing, enfin tous ces trucs-là, et je me suis dit... Ah, c'est rigolo, parce que ça a l'air sacrément efficace. Et ensuite, je suis rentrée en France et je me suis dit, OK, où est-ce que je peux être formée de la manière la plus puissante sur ces trucs-là dont je trouve que c'est des sacrés bons outils pour faire ce que j'aimerais faire dans la vie. Et du coup, j'ai postulé à HEC et j'ai fait ça.
OK. Tu me disais là que Artips, ça avait été un moyen pour toi de régler un problème personnel.
Oui, alors à chaque fois que j'ai monté une boîte, enfin, je l'ai fait que deux fois, mais c'était à chaque fois pour résoudre un problème personnel. Il y en a un qui était vraiment viscéral, c'est je suis arrivée à Paris, à Sciences Po. Pourtant, j'étais fille de prof, j'étais vraiment pas le bas du panier, on peut pas dire. Enfin, de là où je venais, je suis arrivée à Sciences Po où vraiment être fille de prof, c'était le bas du panier. C'est-à-dire que je n'avais pas la moitié des codes culturels, j'allais pas manger dans les mêmes restos qu'eux, je comprenais pas certains mots. Vraiment, j'étais dans un autre univers. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle avec Artips puisque je l'ai créé pour redonner à tout le monde ses codes sociaux en se disant n'importe qui va pouvoir se cultiver gratuitement. Et donc on l'a fait, maintenant on a 1 million d'abonnés. On l'a pas fait que sur l'art, mais on l'a fait aussi sur la science et sur l'économie, et sur la musique. Et puis on s'est mis à créer des cours en ligne de Culture G. Donc ce dont j'aurais terriblement eu besoin à Sciences Po. Et donc là où je suis très fière, c'est que maintenant la moitié du CAC le propose à ses collaborateurs, plein d'écoles le proposent aux étudiants, et Sciences Po le propose à ses étudiants. Ils ont retiré l'épreuve de Culture G en entrée, pour pas qu'il y ait une discrimination là-dessus, et ils donnent nos cours de Culture G aux étudiants pour que chacun puisse se rattraper. Et donc là, je me suis dit, c'est bon.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, j'ai résolu mon problème.
Comment ça a démarré, Artips ? Ça a donné quoi au démarrage, enfin, les premières semaines
Bah, au démarrage, c'était drôle. On s'est dit, on va créer une boîte, mais d'abord, voyons si ça marche. Donc, je suis allée voir mon prof d'histoire de l'art à Sciences Po en lui disant, j'y connais rien en histoire de l'art, mais c'est vraiment trop cool comment tu racontes les histoires des œuvres. Est-ce que tu peux me donner 3-4 anecdotes? On a trouvé 1000 abonnés sur Facebook en 2-3 jours, plus les amis de nos parents.
Et ça, on est en quelle année?
En 2013. Et on a envoyé ces 3 premières histoires. Et on s'est dit, est-ce que les gens vont partager? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont le garder pour eux? Et en fait, en 2 semaines, on est passé de 1000 à 5000 abonnés. On s'est dit, merde, ça marche. Donc, on a créé la boîte. Moi, j'ai fait un emprunt de 1000 euros tellement j'avais pas d'argent pour créer la boîte. Donc, on a créé ça
Je sais ce que c'est qu'emprunter pour créer sa boîte.
Oui.
Je l'ai fait.
Ouais, exactement. Et donc, on a fait ça. Et moi, j'étais encore étudiante. Donc, j'avais en gros 6 mois où mes parents me payaient encore le loyer d'étudiante. Et on a lancé ça. Et très vite, ça a marché. Donc, on a eu très vite une belle audience. Il y a des journalistes qui nous ont appelés en nous disant, c'est incroyable et tout ça. Mon associé, lui, il était très complémentaire
Comment il s'appelle
Il s'appelle Jean Perret. Et lui, il est ingénieur.
Comment vous êtes rencontré?
Lors d'un start-up week-end.
Ah, le start-up.
En fait, je lui ai dit, moi, je voudrais trouver une manière pour qu'une fois qu'on est entré dans la vie active, on puisse continuer à se cultiver facilement. Mais je savais pas du tout quelle forme ça allait prendre. Et lui, il m'a dit, moi, je me lève à 5h du matin pour lire de l'histoire de l'art. Je me suis dit, ce type est complètement dingue. Moi, jamais je me lèverai à 5h du matin pour quoi que ce soit, d'ailleurs. Et il m'a dit, si tu veux, je démissionne et on le fait pour de vrai. Donc, je lui ai dit, je sais pas, moi, je suis étudiante. Il m'a dit, viens, on essaye. De toute manière, moi, j'en ai marre de coder de la pub. Et puis, toi, t'as un problème à résoudre. Donc, allons-y. Et on a essayé, ça a marché. Et donc, après, on a passé un an sans se payer. Essayer de trouver une manière de faire que ce projet puisse continuer de vivre. Et c'est là où, du coup, ça s'est transformé en entreprise. On a levé des fonds, on a recruté du monde.
Vous avez levé en quelle année?
On a levé au bout d'un an, un an et demi.
Donc 2014, c'était dur en 2014 de lever des fonds?
Quand vous ne l'avez jamais fait, que vous n'avez pas de réseau, oui. Après, la plupart des gens vont nous dire, vous êtes allé hyper vite, ça n'a pris que 4 mois. Moi, j'ai l'impression que c'est une éternité, qu'il faut faire la danse du ventre toutes les journées. Du coup, tu n'es pas focus sur vraiment ton activité. Mais c'est un exercice intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant, puisque maintenant, pour Time for the Planet, c'est l'exercice principal de mes journées. Donc,
on va dire
que c'était formateur. Et ça m'a permis de rencontrer des gens formidables, des gens aussi pas formidables du tout, mais au global, plutôt très positifs.
Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de ta boîte?
Alors, ça faisait 7 ou 8 ans que j'y étais. On avait atteint plus de 2 millions de chiffres d'affaires. On était entre 30 et 40 personnes qui bossaient chez Artips. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais un peu bouclé la boucle. Je ne voyais pas quelle était l'étape d'après à faire. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte un peu trop tardivement que je savais et créer et gérer, mais que créer m'apportait beaucoup de points de vie et gérer m'en enlevait pas mal. Et j'ai cru pendant longtemps que je pouvais y arriver, mais en fait, j'y arrivais, mais ça me rendait très malheureuse, quoi. Et le troisième truc, c'est qu'en parallèle, j'avais un petit problème de dissonance cognitive parce que ça faisait 2 ans que j'avais pris conscience, mais vraiment comme une énorme claque dans la figure du niveau de l'urgence écologique. Et je n'arrivais plus à me dire qu'envoyer des newsletters pour expliquer la culture, ce qui est une mission très noble, par ailleurs, c'était suffisamment important par rapport au tsunami climatique qu'on m'annonçait. Et je trouvais personne qui s'en occupait assez vite par rapport au niveau du problème que
j'avais
compris.
Qu'est-ce qui a déclenché la claque?
Une conférence de Jean Covici, comme beaucoup de monde. Une conférence qu'il a faite à Sciences Po, qui est d'ailleurs visible partout ou sur notre site internet. Mais comme beaucoup de gens, j'avais pas compris 2 trucs. J'avais pas compris l'ampleur et à quel point c'est très égoïstement, très directement lié à moi. C'est-à-dire que tant que je me disais que c'était sur un problème à résoudre sur 10 générations, et globalement, il allait faire un peu plus chaud, ça allait. Et puis quand j'ai compris qu'en fait... on parlait de ma retraite, c'est-à-dire mes 60-80 ans, où clairement la vie que je m'imaginais avec des petits gamins qui courent autour d'une piscine dans de l'herbe verte, c'était pas du tout parti pour arriver.
En tout cas dans la Drôme.
En tout cas dans la Drôme ou en France, ouais. Et que 2 degrés, c'était pas 37 au lieu de 35 au bord de la piscine. Et en fait, il y a 2 trucs dont on parle assez peu et que j'ai découvert. Et alors ça, j'ai l'impression que les gens ne le savent pas du tout. C'est ce qu'on appelle les bombes climatiques ou les boucles, en bon français, c'est les boucles de rétroaction positive. C'est l'idée que quand tu dépasses 2 degrés, là, la fuite du rapport du GIEC a dit que c'était plutôt autour de 1,5. Je suis ravie. Donc on perd 50 ans. Mais qu'une fois que tu as activé ces boucles de rétroaction, en fait, le cercle vicieux, il est lancé et c'est inarrêtable. Et donc, il y en a une qui est très concrète, c'est la fonte du permafrost. Et donc, quand le permafrost aura fondu, ça libérera une telle quantité de méthane. C'est comme si tu avais un robinet qui, jusque-là, était ouvert, que tu essayais de fermer un peu. Mais là, c'est comme si tu balances un grand coup-pied dedans, puis il n'y a plus rien pour le fermer. Et donc, tu relâches une quantité de gaz à effet de serre qui est monstrueuse par rapport à ce qui est actuellement. Et donc là, tu pars sur des scénarios à plus 5, plus 7, plus 9 degrés. En fait, les gens ne se rendent pas compte qu'un écart de 5 degrés, c'est typiquement l'écart qu'il y a aujourd'hui entre la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui et la dernière ère glaciaire où l'Europe était recouverte de glace. Et je ne parle pas d'un peu de glace, il y avait plusieurs kilomètres de hauteur de glace. Les gens disent « Ah, 2 degrés, ça passe, on mettra un peu la clim. » Mais en fait, 2 degrés, c'est déjà le début de l'horreur. Et plus 4 ou plus 5, c'est un monde dont on n'a aucune idée et où c'est absolument pas la vie qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
J'ai lu ou j'ai entendu que tu disais que le GIEC n'était pas très bon en com et que plutôt que de parler de 2 degrés, ils auraient dû parler de 50.
Alors, j'ai jamais dit que le GIEC n'était pas très bon en com. J'ai dit un truc formulé un peu différemment. J'ai dit les fameux plus 2 degrés, c'est la pire erreur de com de l'humanité. J'ai pas dit que c'était le GIEC. Moi, j'admire énormément le travail du GIEC. Nous, on se définit souvent comme les soldats du GIEC, c'est-à-dire on fait ce qu'ils nous ont dit de faire. On trouve les trucs et on déroule. Ce qu'on dit, c'est plutôt sur l'accord de Paris. C'est l'accord de Paris qui a fixé ces 2 degrés. Et ce qu'on dit, c'est évidemment, scientifiquement, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait avéré que ces 2 degrés, c'est la bonne mesure. Enfin, je veux dire, on ne remet absolument pas ça en question. Ce qu'on dit juste, c'est que mettre ça en avant en termes de mobilisation des imaginaires collectifs, ça ne marche pas. Parce que toute la journée, je rencontre des grands décideurs, des grands patrons qui auraient les moyens de faire bouger les choses et qui me disent « Oh, mais Time for the Planet, est-ce que c'est pas un peu une mode finalement, le climat, c'est le nouveau truc, il y a 10 ans c'était autre chose, il y a 3 mois c'était MeToo, c'est votre nouveau truc, puis ça va vous passer, quoi. » Je leur dis « Mais vous avez compris, en fait ?» Ils disent « Oui, bah, il va faire un peu plus chaud. » Je leur dis « Mais ok. » Et donc en fait, quand on creuse un peu, les gens pensent vraiment qu'il y a 10 générations, un peu comme moi, je le pensais il n'y a pas plus de 3 ans, donc je peux vraiment pas trop taper dessus, mais ils me disent bah, « c'est bon, c'est dans 10 générations, on s'en fout ». Et deuxième truc, globalement, 2 degrés, ça passe. C'est là où je dis qu'il y a un enjeu de communication monstrueux, mais c'est pas au GIEC ou à l'accord de Paris de faire ce boulot, c'est la société civile et aux décideurs de traduire autrement et d'expliquer « attends, 2 degrés, ça veut dire que tu as des pics à 50 degrés à Lille les étés, à Lille, hein, ça veut dire que tu as le climat du Maroc en France, ça veut dire que en termes de productivité, ça va pas être la même histoire, ça veut dire que tu as les moustiques avec tout ce que tu détestes pendant tes vacances dans les pays un peu exotiques, genre le palu, la dingue, bah, qui sont à Paris. Enfin, c'est un autre niveau de délire que le 1.1. Et donc, ce que je dis, quand je dis ces 2 degrés, c'est une erreur de com. C'est pas pour taper sur qui que ce soit, c'est évidemment plutôt pour dire, là, il y a un truc à changer, il y a un récit à inventer. Et sur, c'est quoi les vrais risques, le vrai niveau de risque avec concrètement dans ta vie quotidienne, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi les solutions? Plutôt que juste dire, bon, 2 degrés avec la clim, franchement, au bord de la piscine, ça passe.
Et donc, est-ce que tu peux nous parler de Time for the Planet?
Oui, bien sûr.
Alors, peut-être que tu peux nous citer tes 5 associés cofondateurs et puis un peu leur parcours avant.
Bien sûr. Bah, effectivement, l'avantage, c'est qu'on est très complémentaires. On ne se connaissait pas avant. Enfin, il y en a 3 d'entre eux qui se connaissaient bien. Ils étaient potes depuis la maternelle. Il y a Mehdi et Nicolas qui avaient monté une boîte dans les colonies de vacances, un social business. Et ils s'étaient rendu compte que c'était vachement bien d'utiliser l'entrepreneuriat parce que les bénéfices permettaient de financer les séjours d'enfants handicapés. Il y en a un des deux qui est spécialiste d'automatisation et de référencement, donc il connaît très bien les outils digitaux et le no-code, ce qui nous permet d'aller très vite sur Time for the Planet. Et l'autre qui connaît très bien le milieu associatif et comment structurer l'intelligence collective pour avoir plein de bénévoles qui font plein de trucs, ce qui est quelque chose de très puissant chez Time for the Planet. On a Arthur qui est spécialiste des réseaux sociaux, qui avait monté des très grosses communautés, beaucoup d'applis dans des sujets comme le dating, donc rien à voir. On a Denis qui est le seul ingénieur de la bande et qui lui a fait 10 ans de détection d'innovation et d'accompagnement de l'innovation dans un cabinet. On a Laurent qui est notre DAF en gros parce qu'il a monté des cabinets d'expertise comptable et moi.
Vous vous rencontrez à quelle période ?
Alors l'histoire est assez marrante parce que donc je quitte Artips la semaine avant le confinement. J'avais discuté pas mal avec un copain en lui disant « il faut qu'on trouve 1 milliard pour le climat ». On a trouvé 1 milliard pour Notre-Dame en 3 mois, juste en France, avec des philanthropes. C'est pas possible qu'on finance le toit de Notre-Dame et qu'on finance pas la survie de la planète et de l'espèce humaine, accessoirement. J'en parlais à plusieurs copains et j'en ai parlé à ma coloc. Et ma coloc me dit « écoute, c'est rigolo, je viens de trouver 5 Lyonnais qui cherchent 1 milliard pour le climat et qui font exactement ce que tu avais prévu de faire. Regarde ». Et donc là, je regarde, je me dis « c'est trop beau pour être vrai ». Je ne les connaissais pas du tout. Ils avaient levé, je ne sais pas, peut-être 20 000 euros à l'époque. Et par contre, ils avaient pondu un dossier de 90 pages qui expliquait toute leur méthode et leur site était incroyable. Donc je suis devenue actionnaire, j'ai mis, je sais pas, 200 euros, je crois. Et je me suis dit, mon Dieu, ils sont trop forts en exécution. C'est vraiment extrêmement parfaitement fait. Et je leur ai écrit un mail en leur disant, c'est un mail que j'ai peaufiné pendant 2 semaines, et je leur ai écrit exactement pourquoi je voulais lever 1 milliard et ce que je savais faire dans la vie. Et le lendemain, ils m'ont recontacté, on a eu une visio de, je sais plus, 2-3 heures. Et le lendemain, j'étais cofondatrice, j'avais 8 heures de réunion, accès aux mails, accès à tout, et c'était parti, quoi. Donc, alors j'aurais bien voulu 2 semaines de vacances de plus, mais ils m'ont dit non, on commence demain. Et voilà, c'est comme
donc
ça
là,
que tout a commencé.
C'est quelle période?
Et ben, c'était la fin du premier confinement, du coup.
Toi, c'est quoi ton boulot? Comment vous êtes réparti le boulot?
Là, l'avantage, c'est qu'on est tous déjà très spécialisés. Et donc moi, j'ai beaucoup eu de clients grands comptes. J'ai levé beaucoup d'argent et je me suis beaucoup occupée de la presse et de la communication. Et donc, en fait, assez naturellement, je leur ai dit, c'est génial que j'ai plus jamais à faire de la compta, c'est génial que j'ai plus jamais à faire des RH, c'est génial que j'ai plus jamais à faire des réseaux sociaux, je déteste tout ça. Par contre, ce que je sais bien faire, c'est aller lever de l'argent, parler à la presse, faire de la communication, représenter lors d'événements, etc. Et donc ça, j'aimerais bien continuer. Et ils m'ont dit, bah, c'est génial parce qu'aucun d'entre nous sait faire. Et du coup, assez naturellement, j'ai pris cette place-là.
Comment ça marche Time for the Planet? C'est quoi le principe?
Alors le principe, on l'a créé au fur et à mesure, mais d'abord on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. On est vraiment parti du constat, on est citoyen, on est hyper démunis. Et il y a un truc énorme qui nous arrive dessus à horizon 20 ans. Quoi. Il n'y en a que 10 ans, 10-15 ans pour réussir. Qu'est-ce qu'on peut faire qui peut aller assez vite? La politique, ok, on vote déjà tous différemment, ça ne suffit pas. Et en plus, convaincre 7 milliards d'êtres humains de faire comme nous, bah... impossible, moi je parle pas chinois, je sais pas comment expliquer aux chinois qu'il faut faire plus sobre. Et donc on s'est dit il faut faire autre chose. On a été voir Jean Jouzel, donc l'ancien vice-président du GIEC et des scientifiques, et on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut vraiment faire nous.
Il est actionnaire
de Time for the Planet. Ouais. On lui a dit qu'est-ce qu'on peut faire nous, qu'est-ce qui est à nos mains. Il nous a dit bah il y aura besoin de régulation et de sobriété, vous l'avez compris, mais il y a besoin d'un autre truc, c'est que toutes les innovations dont on a besoin pour décarboner la société, pour rester en dessous des 2 degrés, en fait, elles ne sont pas du tout déployées à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et pire que ça, elles sont bien souvent coincées dans les laboratoires. Parce que les scientifiques, c'est rarement des bons entrepreneurs. Ça peut, mais c'est rarement le cas parce que c'est des mindsets complètement opposés. L'entrepreneur, il va construire son château de Lego, ça va se péter la gueule, il va recommencer. Le scientifique, il va tout border, il va valider ses hypothèses, il va prendre son temps pour vraiment tout faire carré. Et du coup, bah, il faut les deux, en fait. Ce qu'on fait très concrètement, c'est qu'on lève 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises contre les gaz à effet de serre. Donc on détecte des innovations contre les gaz à effet de serre qui permettent de décarboner, mais avec un impact énorme. On ne fait pas genre une petite appli pour expliquer que prendre l'avion, ce n'est pas top. Globalement, on fait des trucs qui ont un impact qui change la donne au niveau mondial. On les analyse, donc on a 3500 évaluateurs qui préanalysent. Ensuite, on les fait passer devant un comité scientifique où on a les plus grands laboratoires que sont le CNRS, le CEA et tous ces grands laboratoires qui valident la pertinence. Ensuite, on rajoute dans l'équipe de fondateurs un cofondateur qui est un entrepreneur aguerri.
Donc, c'est des projets qui seront... Alors là, il n'y a pas eu de projet financé encore?
Alors là, ça va se faire cet été, là.
OK.
Et donc, c'est des projets qui sont... En gros, ils ont souvent un prototype et le but, c'est de le lancer. Et donc, c'est pour ça que nous, on adjoint un entrepreneur aguerri qui a déjà fait des sales, du marketing, déjà internationalisé des boîtes, déjà fait des reventes, fait des gros trucs, quoi, qui sait comment passer à l'échelle. Et on investit jusqu'à 10 millions d'euros dans chacune de ces boîtes. Donc ça, c'est ce qu'on fait concrètement. Et donc, en un an, on a levé 7 millions d'euros. On va créer nos 3 premières boîtes. Il y en a 2 qui ont été validées samedi dernier en Assemblée Générale. Donc, c'est chouette. Et on va préparer l'internationalisation du mouvement. Puisque là, on a déjà 23 000 associés citoyens qui viennent de 34 pays. Et on a 1 500 entreprises qui sont aussi associées de Time for the Planet, des collectivités territoriales aussi, des ONG, des écoles. On fédère vraiment toute la société civile. Ça, c'est ce qu'on fait. Et après, il y a comment on le fait, parce que c'est un modèle très original pour le coup. Donc Time for the Planet, ce n'est pas une asso, ce n'est pas une fondation, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est une entreprise à mission.
Donc c'est une SAS?
Non, c'est une société en commandite par action, c'est une SCA.
Okay.
Et je pourrais t'expliquer pourquoi, mais l'idée c'est de pouvoir accepter un nombre
comme Lagardère.
Illimité. Ouais.
Enfin, c'était comme Lagardère jusqu'à la semaine dernière.
C'est ça. En fait, c'est que la SAS, c'est sympa, mais moi, ma boîte précédente, c'était une SAS, mais tu as le droit qu'à 150 actionnaires. Donc nous, on en a 23 000, ça ne marchait pas. Et puis, il fallait qu'on puisse accepter des actionnaires. Par exemple, si Google met 300 millions sur la table, on les prend. Mais il ne faut pas que, pour autant, ils dégagent les 6 cofondateurs et qu'ils disent maintenant, c'est mon joujou.
Ils sont dans tes leads, Google ou pas?
On les a rencontrés. Okay. Je n'en dirai pas plus. Et du coup, si tu veux conserver l'exécution et la vision citoyenne, il fallait qu'on ait cette séparation entre les deux types d'actionnaires, ceux qui sont gérants et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est une entreprise, elle a des particularités très fortes. La première, c'est qu'on est ouverte à tous. Donc pour la première fois, n'importe qui peut devenir co-actionnaire de Time. Ça prend 1 minute sur notre site internet, c'est ouvert à partir de 1 euro. On a des gens qui mettent 10 euros, des gens qui mettent 1 euro aussi. On a des gens qui ont mis 200 000 euros, on a des gens qui ont mis 2 millions d'euros. On accepte tout le monde parce qu'on ne cherche pas à dénoncer qui sont les coupables. Pour nous, il n'y a pas de héros du climat. On veut juste être dans la construction. Et par contre, c'est très bien qu'il y ait des ONG qui fassent le travail de pointer du doigt ce qui ne va pas, parce que c'est important aussi. Mais ce n'est juste pas notre rôle. Donc nous, on dit qu'on a besoin de tout le monde pour décarboner. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que par exemple, comme on a toute la chaîne de valeur, du producteur au distributeur au client final, on va pouvoir faire shifter des marchés entiers à très grande vitesse, contrairement à un fonds d'investissement classique, où ils vont donner de l'argent, mais ils vont peut-être donner 2-3 contacts. Nous, on donne pas 2-3 contacts. Nous, on a 23 000 personnes et 1 500 entreprises en un an. Donc très vite, on aura beaucoup plus. Et par rapport à la vitesse qu'exige l'urgence climatique, ce fait d'avoir tout le monde, d'être fédéré tout le monde, te permet de transformer des marchés, des chaînes de valeur entières très rapidement. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et le deuxième élément fondamental, c'est les gens qui investissent chez nous ne le font pas pour une performance financière, mais pour une performance environnementale. Ils investissent 1 euro, mais ce n'est pas un don. Ils récupéreront 1 euro à 10 ans, donc 1 euro pour 1 euro. Par contre, chaque année, on va leur distribuer ce qu'on appelle des dividendes climat, c'est-à-dire le nombre de tonnes de CO2 économisées ou captées grâce à leur investissement. Et ça, c'est leur retour, leur performance environnementale.
Comment tu le calcules, cet impact carbone ?
Alors, il ne faut pas que ce soit nous qui le calculions, parce que tu ne peux pas être jugé partie. Donc, en fait, tu fais appel à un cabinet indépendant qui mesure le nombre de tonnes de CO2 économisées ou captées par rapport à un scénario de référence. Ça, c'est la méthode que l'ADEME recommande. Tu le fais donc valider par ce cabinet. Chaque année, tu fais une vérification. Et ensuite, tu l'agrèges pour toutes les 100 boîtes qu'on crée et tu les distribues sous forme de dividendes climat. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi validé avec le fondateur du Net Zero Initiative, Carbone 4, et tous les gens qui comptent un peu sur le sujet du carbone.
Donc c'est finalement un nouvel indicateur financier qui est à côté du TRI.
C'est ça, c'est la performance extra-financière et environnementale, mais comme bientôt le carbone va devenir bien plus important que les euros, c'est important de miser là-dessus, quoi.
Finalement, quelqu'un qui achète aujourd'hui revendra ses actions dans 10 ans ou dans 5 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a une liquidité pour le même montant. Qu'est-ce qui se passe pour les boîtes que tu as en portefeuille s'il y a un exit d'une...
Ah oui, alors effectivement, les boîtes qu'on crée, elles doivent être rentables. C'est que Time for the Planet qui a but non lucratif, mais on va financer des boîtes ou les créer, elles doivent gagner de l'argent. Et donc, il peut se passer plusieurs choses. Soit au bout d'un moment, elles veulent nous sortir, donc il n'y a pas de souci. Ça permet à Time for the Planet de faire une plus-value. Et cette plus-value, elle est soit réinvestie dans les nouveaux projets, soit elle permet de rendre 1 euro à 1 euro, enfin 1 euro pour 1 euro investi, pour tous ceux qui ont déjà passé 10 ans dans le véhicule Time for the Planet. Si on a les moyens de le rendre, évidemment, parce que ce n'est pas une pyramide de Ponzi, on n'utilise pas l'argent de ceux qui rentrent pour payer ceux qui sortent. C'est uniquement si on a fait des plus-values ou si des dividendes de nos filiales sont remontés.
Ok, tu nous parlais de 2 projets qui ont été validés la semaine dernière.
Ouais, alors il y a 2 projets qui ont été validés qui sont très différents. Le premier, c'est un projet de batterie stationnaire. Donc c'est pas du tout les batteries qu'on a dans les téléphones ou dans les voitures, c'est des très grosses batteries qui font plusieurs mètres cubes. Aujourd'hui, le problème des batteries, c'est qu'elles sont inflammables, elles sont pas recyclables, elles ont des métaux rares et elles durent entre 3 et 6 ans en gros, comme celle de Tesla par exemple. Il se trouve que les batteries, on en a absolument besoin pour faire la transition écologique, parce que notamment pour régler le problème de l'intermittence du photovoltaïque ou de l'éolien, il faut pouvoir stocker l'énergie. Parce que c'est un énorme verrou dans la transition actuelle. Et donc nous, on a détecté 2 scientifiques qui ont déjà réussi des très belles choses avant et qui l'ont inventé une batterie qui est 100% recyclable, sans métaux rares, qui ne chauffe pas, donc qui n'est pas inflammable, qui a un nombre de cycles illimité, donc qui peuvent durer 30 ans. Ils n'ont pas encore trouvé comment le déployer à l'échelle mondiale. Et donc nous, l'idée, c'est d'apporter un CEO aguerri qui va pouvoir construire l'usine, le fabriquer, le vendre, etc. et sortir de l'aspect juste prototype des innovateurs scientifiques.
Et là, dans le projet, la première sortie du premier prototype, on est à combien de temps ? Il y a déjà eu
Il y a déjà un prototype. Là, l'idée, c'est de l'installer, de faire une pré-série. Donc ça, c'est un premier investissement. Le deuxième, c'est complètement différent.
Et là, c'est quel montant que vous allez mettre dans la boîte ?
Entre 1 et 3 millions.
OK.
Le deuxième projet est complètement différent. C'est un projet low-tech, pour le coup, dans la capture du carbone. Donc, y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est la capture du carbone, mais il se trouve que on a déjà trop émis pour rester en dessous des 2 degrés, là. Il y a déjà trop de CO2 dans l'air et dans l'eau. Et donc, il va falloir en retirer. Pour ça, il y a des technologies qui commencent à émerger. Le problème, c'est que quand on capture du carbone, généralement, l'idée qu'on s'en fait, c'est que c'est un gros ventilateur qui fait tourner de l'air et qui capture le CO2. Le problème, c'est que pour faire tourner ces gros ventilateurs, il faut de l'énergie. Et comme 80% de l'énergie est d'origine fossile, en fait, tu enlèves du CO2, mais tu en ressors de l'autre côté en faisant tourner tes ventilateurs. Donc, c'est pas très optimum. Et nous, on a trouvé un collectif de scientifiques qui bossent depuis 20 ans sur une petite roche verte qui s'appelle l'olivine. Ils ont découvert que quand on concassait cette roche en tout petits grains et qu'on la répandait sur les plages ou au fond de l'eau, avec l'énergie mécanique des vagues, donc c'est pas comme le ventilateur, les vagues ça marche tout seul, c'est ça qui est chouette, ça vient frapper l'olivine et ça capture énormément de CO2. Et ça désacidifie l'océan, et ça le transforme, et ça permet de régénérer les coraux en plus. Donc c'est un peu le triple effet qui se coule, quoi. Et surtout, le niveau d'impact est complètement dingue, puisqu'ils ont démontré que si tu mettais ça sur 2% des plages mondiales, tu captais 100% des émissions de gaz à effet de serre. 2% des plages, c'est pas du tout faisable, évidemment. Mais c'est pour te montrer le niveau d'impact des solutions qu'on recherche. Et ça, c'est low-tech, puisque t'as pas à financer l'énergie.
Et comment on la trouve ou on la fabrique, l'olivine ?
C'est la roche la plus présente sur Terre. Donc il faut la miner. Il faut la concasser. Donc c'est là où tu vas émettre un peu de gaz à effet de serre, effectivement. Mais ça dépend, parce que si ton minage et ton transport t'arrives à le faire de manière décarbonée, bah, tu commences à avoir quelque chose de très très performant en termes de capture.
Et donc là, pareil, on en est où du projet ?
Donc eux, ça fait 20 ans qu'ils bossent dessus. On a découvert aussi que l'IFREMER, qui est un labo en France sur le sujet, bosse aussi dessus, mais ils ne s'étaient jamais parlé entre eux. Et donc c'est la même histoire. C'est des scientifiques, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus, et on leur dit, bah, du coup, on y va ? Ils disent, bah, oui, mais c'est compliqué, il faut obtenir des autorisations politiques, il faut faire des tests in situ, etc. Et donc, en fait, on a convenu avec eux qu'on allait créer la boîte. Donc nous, celle-là, on l'a créée, pour le coup. Ils nous aident en nous donnant tout ce qu'ils ont découvert depuis 20 ans. Et nous, on va aller chercher les autorisations politiques, faire des tests de ce qu'on appelle écotoxicité pour s'assurer que ça ne dégrade pas la biodiversité, évidemment. Et puis, ensuite, pouvoir répandre sur quelques premières plages, montrer comment ça marche, créer toute l'analyse qu'il faut, toutes les datas qu'il faut scientifiques, aller choper les autorisations politiques pour le déployer massivement.
J'ai lu que ces innovations, alors je ne sais pas s'il y a un brevet sur la batterie, là ce que je comprends de l'olivine, c'est qu'il n'y a pas de brevet, mais il faut le scaler. Mais j'ai vu que toutes les innovations finalement seraient en open source.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, l'idée est là, l'idée c'est de partager. En fait, on cherche vraiment l'équivalent du gel hydroalcoolique sur le climat, quoi. C'est-à-dire le truc dont la recette va pouvoir permettre à n'importe qui de copier-coller l'innovation pour aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme open source. Après, la manière concrète dont c'est fait, c'est assez spécifique. En gros, nous, on va créer des boîtes ou les financer, et celles-ci, elles auront des brevets. Elles protégeront l'innovation. En gros, on ne met pas le brevet coucou sur Wikipédia en mode servez-vous, c'est pas ça. Par contre, on offre la possibilité à n'importe quel entrepreneur ou boîte qui veut utiliser cette innovation de l'utiliser. Mais elle doit signer avec nous une licence. Cette licence, elle va lui donner le droit donc de copier et de commercialiser et de s'enrichir avec l'innovation. Mais elle va lui donner deux devoirs. Le premier, c'est que si elle améliore l'innovation, elle doit remettre au pot commun l'amélioration, ce qui fait que, en fait, tout le marché qui est créé va progresser très vite et la recherche progresse très vite. Et la deuxième chose, c'est qu'ils doivent nous communiquer le nombre de tonnes de CO2 économisées. Et c'est nous qui les valorisons, donc sous la forme des dividendes climat, auprès de nos associés. Donc si, par exemple, Tesla prend la batterie qu'on finance, nous, et la déploie pour tous ses points de chargement de voiture, et bien en fait, tout le CO2 économisé par ces nouvelles batteries, grâce à la diffusion de Tesla, c'est nous qui pourrons le valoriser, et pas Tesla. Donc, en fait, ça nous permet à nous de récupérer l'impact de notre innovation, tout en permettant à n'importe qui de le déployer très massivement, parce qu'on est quand même dans une course contre la montre. Et donc c'est ça la puissance de l'open source, c'est qu'on ne va pas créer que 100 boîtes, on va créer 100 marchés mondiaux pour aller beaucoup plus vite.
J'ai écouté ta conférence TED où tu dis qu'il ne faut pas aller chercher la perfection. Est-ce que c'est pour aller plus vite ?
Ça, c'était plutôt pour expliquer comment c'est souvent difficile de passer d'un mindset de bon élève à un mindset entrepreneur. En fait, il n'y a pas de livre qui dit comment réussir Artips ou Time for the Planet. Il n'y a personne qui sait, en fait. Et donc ça, c'était un vrai deuil d'accepter que, en fait, pas grand monde savait. Et sur le climat, c'est d'autant plus vrai. Pas grand monde sait exactement comment s'en sortir. Et donc, bah, j'ai maintenant changé d'approche. J'essaie de faire le premier pas pour que la route apparaisse. Et on ne fait que des petits pas comme ça et on essaie de tracer la voie, quoi.
Et ça, avec tes cofondateurs, vous êtes bien alignés ?
Ah oui, bah ça, c'est des entrepreneurs de génie, les cinq, là, donc... Donc oui, on fonctionne pareil. C'est marrant, il y a plein de trucs qu'on n'avait pas prévus. On ne savait pas si des si grands laboratoires allaient accepter de faire notre comité scientifique bénévolement, parce qu'ils ne sont pas payés comme nous. On ne savait pas si, comment on allait gérer tous les gens qui voudraient nous aider. Aujourd'hui, on a un endroit qui s'appelle la Galaxie de l'Action, où on a 3500 bénévoles qui, au quotidien, font des tonnes de trucs pour nous complètement dingues, et que Nico a réussi à créer, à animer, et à faire que ce soit une communauté autoportante dont beaucoup de gens rêveraient. Et donc, tous ces trucs-là, on ne les avait pas anticipés. C'est venu au fur et à mesure qu'on développait Time, quoi.
Pendant cette année de confinement, déconfinement, reconfinement, il paraît que les Français se sont mis à la lecture. Je ne sais pas si tu lisais d'habitude, mais c'est quoi tes dernières lectures, tes dernières séries, ton dernier film ?
Là, en ce moment, je me mets à lire des trucs sur le dérèglement climatique et ça me fait bader. Donc, je crois que je vais me remettre au roman. donc là, en ce moment, qu'est-ce que je lis ? Je lis La Chartreuse de Parme. Voilà, c'est les classiques. Les séries, qu'est-ce que j'ai regardé ? Alors, je continue de regarder Netflix, mais j'ai changé un truc parce que j'ai découvert que Netflix, c'était l'horreur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une énorme différence entre regarder quelque chose sur Netflix ou sur YouTube en streaming versus le télécharger. Et donc, en fait, maintenant, je regarde quelques séries et quelques films sur Netflix, mais je les télécharge en amont.
Pourquoi est-ce que ça change ?
Bah parce qu'en fait, quand tu fais du streaming, tu envoies tout le temps de la data au serveur, tout le temps. Et donc, c'est énorme, en fait. Le numérique, c'est un poste énorme d'émissions de gaz à effet de serre, on le sait pas. Et le pire là-dedans, c'est Netflix et le porno. Le porno est responsable d'énormément de gaz à effet de serre. Et c'est marrant parce que personne ne le sait.
J'avais écrit un article dans Les Échos là-dessus.
Ah bah voilà, très bien, donc tu es très au courant. Et donc, quand tu télécharges, c'est beaucoup plus court le temps. Et tout est envoyé d'une fois, et donc c'est pas du tout comme du streaming. Et donc, je n'arrive pas à me sevrer de Netflix, mais j'essaie de faire au mieux pour que c'est le moins d'impact possible.
Bon bah j'ai appris quelque chose.
Voilà.
Qui tu verrais à ta place la prochaine fois, un entrepreneur, une entrepreneuse qui participe de la relève et qui veut changer les choses ?
Bah, je pense que tu connais déjà Change Now, Ticket for Change et tous ces gens-là, qui sont un écosystème formidable. Ouais. Et j'espère que le prochain, ce sera peut-être un de nos entrepreneurs qu'on aura financé, qui pourra venir te raconter.
Tu ne nous as pas donné les deux noms des...
Des boîtes ?
Ouais.
Alors, il y en a une qui s'appelle Aredox et l'autre qui s'appelle Carbon Impact.
Aredox, bah, moi, j'attends avec impatience que la levée soit closée pour les invités. Merci Colline pour cet échange. Moi ce que je retiens c'est l'ambition. J'entends pas souvent des entrepreneurs ou des entrepreneuses me dire qu'ils veulent faire une boîte à 1 milliard. Donc bah, bravo, et je pense qu'on a besoin de ça pour la bascule et pour changer les choses.
Bon, on espère que ça fera partie de la solution en tout cas.
À bientôt.
Merci.
Tous les 15 jours, je donne la parole à un acteur ou une actrice du changement. Retrouvez les autres épisodes de la série La Relève sur toutes les plateformes de podcast et sur castali.com.